Et donc je lutine cette poitrine angevine. Mais elle m'a échappé, a pris du champ dans le pré, et je n'ai pas couru après. Je ne voulais pas attraper une angevine de poitrine. Moralité, à vanille et mamelle sont les framboises du destin.
S'il condamne, papy, s'il, nous retiendrons la nuit. Et l'Amérique ne connaîtra d'autre lumière que les flammes du...
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère Marie Marchand. Notre invité du jour s'appelle Cyril Martinez. Il est écrivain, poète et performeur. Il vient de publier chez Gallimard dans la collection Verticale « Comment habiller un garçon ». Dans ce 9e livre, il retrace l'itinéraire d'un jeune homme désœuvré qui cherche un sens à sa vie à travers les codes vestimentaires des mods. Vous savez, ce mouvement apparu à Londres à la fin des années 50 et qui fut à son apogée lors de la décennie suivante. Il en résulte un texte assez ludique sur les us et coutumes du vêtement masculin. Mais je vous laisse en présence de Cyril Martinez qui vous en dira un peu plus sur ce roman jubilatoire et résolument hors norme. Cyril Martinez, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de publier Comment habiller un garçon aux éditions Gallimard dans la collection Verticale. Pourquoi un petit peu ce titre mode d'emploi? Comment habiller un garçon au singulier? Il n'y a pas de point d'interrogation. Et garçon, ça dénote un petit peu un caractère juvénile. Donc est-ce que ce titre, vous l'avez longtemps cogité? Est-ce que vous étiez... où c'est venu en cours d'écriture?
Alors c'est un titre très important pour l'écriture du livre, notamment en fait il a organisé le livre. En réalité le titre est arrivé en cours d'écriture et il m'a permis complètement d'écrire ce texte. Je pense qu'il a été fondateur, le titre, notamment dans la structure du texte, etc. Donc évidemment pour moi il ne s'agissait pas de mettre de point d'interrogation puisque c'est un peu affirmatif. Comment habiller un garçon? Voilà une idée, en tout cas une possibilité d'habillement d'un garçon. Voilà.
Voilà comment commence aussi votre roman, Cyril Martinez. 3 mois que je ne m'habille plus. Décision prise un matin, plus de vêtements ni de chaussures. J'ai incliné la penderie jusqu'à ce qu'elle s'écroule et déverse mon vestiaire complet sur le sol de ma chambre. 3 mois au lit à observer le tas de fringues ainsi formé. Ce matin, une chaussette a tenté de s'enfuir. Une écharpe s'est octroyée des libertés. Quelques centimètres discrètement gagnés en route pour l'indépendance. J'ai réprimé sévèrement ces tentatives de sécession, m'emparant de la chaussette rebelle et de l'écharpe dissidente pour les remettre d'autorité en haut de ce tas dont nul ne s'échappe. Alors, est-ce que, justement, votre personnage, Cyril Martinez, refuse de s'habiller? Bon, est-ce que c'est un peu un personnage qui fait sécession, qui fait grève, qui... Est-ce que vraiment, est-ce que s'habiller, ne pas s'habiller, c'est dire non aux codes sociaux?
Alors, il faut penser à une chose, en fait, qui est évidente, qui paraît évidente, mais c'est qu'on est obligé de s'habiller. D'ailleurs, il y a un article de loi qui ne dit pas, d'ailleurs, on est obligé de s'habiller, mais on ne peut pas ne pas s'habiller. On peut pas sortir des vêtus nus dans la rue. Donc c'est vraiment une obligation, c'est voilà, de la part des citoyens. Et ce personnage au début en fait fait une dépression. Et la dépression, parmi les symptômes de la dépression, c'est qu'on a du mal à s'habiller. On est absolument négligé. Et donc l'habillement, qui est une façon de sociabilité, donc s'extraire en fait du monde social, on pourrait dire, c'est refuser de s'habiller. Et donc ce personnage se retrouve dans un état dépressif chez lui, dans sa chambre. et un caractère obsessionnel se crée par rapport aux habillements qui sont l'endroit où se manifeste sa névrose.
Vous parlez du mouvement des mods. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce mouvement ? C'est un mouvement un peu de contre-culture. Présentez-nous un peu pour nos auditeurs, Cyril Martinez.
Alors, c'est un mouvement auquel j'ai participé pour grande partie. Ce livre est documentaire, en tout cas. Et j'ai participé quand j'étais jeune, quand j'avais 17 ans. Un peu dans l'état du personnage, c'est-à-dire je me cherchais une identité sociale, un habit social, en quelque sorte. Alors, c'est un mouvement qui est né, on ne sait pas exactement quand, c'est à la fin des années 50, au début des années 60, dans la banlieue londonienne. On ne sait pas exactement d'ailleurs qui l'a créé, il y a sans doute comme plusieurs foyers comme ça qui sont réunis, et ça s'est créé plutôt dans les milieux populaires des banlieues londoniennes, probablement une partie des fondateurs étaient homosexuels, une autre partie était juif, en tout cas c'est des gens qui étaient très proches qui appartient à la culture populaire, de fait, hein, c'était des prolos, donc il y a toujours l'idée, l'idée de base d'ailleurs quand on est mode, c'est s'habiller toujours mieux que son patron. Ça adjoint plusieurs éléments culturels à l'époque, c'était à la fois la Dolce Vita, un petit peu la nouvelle vague française, et on reprenait des éléments de l'époque victorienne, etc. Donc on décodait comme ça à partir des éléments, notamment il y a la fameuse cocarde qui vient de la Royal Air Force. Oui. En fait, c'est des éléments comme ça qu'on va détourner, qu'on va mettre ensemble. C'est clairement l'esthétique du détournement, on pourrait dire. Hein. Voilà, qu'on va mettre ensemble, qu'on va adjoindre des éléments qui vont pas ensemble. L'autre élément, c'est un élément culturel au sens propre, notamment musical. C'est-à-dire qu'en fait, ces modes ont été les premiers. Alors, je reprends les termes de Dick Hebdige dans Le sens du style, un des premiers livres des Cultural Studies, où il y a un chapitre consacré aux modes. Il dit que c'est le premier à réagir positivement à leur voisinage, qui était antillais, jamaïcain pour la plupart. Et donc, c'est les premiers à avoir écouté notamment la musique jamaïcaine, à dire « mais c'est vachement bien ce truc », etc. C'est eux qui l'ont popularisé, en fait, la musique jamaïcaine, également la calypso, tout ça, exactement. Donc, ils ont été très attentifs à ce qui se passait, simplement, dans leur voisinage. Et ils ont intégré également... Parmi les éléments, il y avait le costard noir, qu'on appelait le costard noir, qu'on a vu plus tard dans le ska, ce qui est le mouvement ska et développement des modes, hein, c'est une ramification, et qui était celui qu'on appelait des rude boys en Jamaïque, en fait, ils s'habillaient comme ça, ils s'habillaient, tac. Et d'ailleurs, c'est très influencé des rude boys, qui avaient également les cheveux courts avec une raie au rasoir, etc. Qui était un look qu'avait avec le chapeau noir, le fameux pork pie hat, etc. Donc c'est un mouvement comme ça qui s'est créé dans les années 60, au tout début des années 60, qui a eu pas mal de succès, qui est devenu à la mode, très très à la mode, qui a explosé en 1965, je crois, suite à des bagarres qu'il y a eu contre les rockers à Brighton, parce qu'en fait il y avait une opposition entre les rockers qui étaient plutôt virils et dans la culture américaine avec les motos, etc. Et les modes qui étaient plutôt un peu plus efféminés, qui mettaient beaucoup de couleurs, etc. Et quand on regarde d'ailleurs dans l'histoire de la mode masculine, alors je fais un petit retour en arrière dont je parle dans le livre, effectivement la mode masculine, elle a été longtemps aussi excentrique et aussi ostentatoire que la mode féminine, en fait, emportée de la même façon, en tout cas dans les cercles. Alors, les gens qui avaient l'argent, mais on pouvait porter des bijoux, du maquillage, du rouge à lèvres, etc. Et évidemment, le gros changement, il arrive au XVIIIe siècle et encore plus au XIXe siècle, c'est-à-dire la révolution industrielle qui va imposer le costume d'affaires, ce fameux costume d'affaires gris, sombre, etc., qui va être celui de l'homme qui travaille, de l'agent de l'État, etc. Alors, ce costume qu'on retrouve dans la politique, etc., qui va être une façon d'écraser ce truc. Et en fait, les modes vont être les premiers, notamment, parmi les éléments, si on accepte quelques mouvements artistiques type futuriste, etc. En fait, c'est le premier à avoir remis de la couleur, en fait, très simplement, dans le vestiaire masculin. Et la couleur était absolument proscrite, hein, ça paraît complètement dingue, de la couleur, également des bagues, des choses comme ça, etc. Voilà. Des éléments de... Surtout du toc, évidemment, mais voilà.
Alors, c'est justement ça, c'est un peu la thématique de votre livre, Cyril Martinez. J'allais dire que on pourrait résumer votre livre en disant que c'est un roman de l'éveil à soi-même. C'est aussi contre le prêt-à-porter et le prêt-à-penser. C'est aussi contre l'uniforme et l'uniformisation. Donc c'est pour l'originalité, c'est un éloge de l'originalité vestimentaire, l'originalité de l'attitude, de la silhouette, de la gestuelle.
Il y a un élément qui est très important, je pense, dans nos sociétés, je dirais, à quelle culture on appartient ? Quelle culture ? Alors, l'idée d'identité, c'est pas une notion qui m'enchante beaucoup, elle m'est extrêmement désagréable, mais en tout cas, participer à un mouvement culturel, s'éveiller à quelque chose, à la culture, à la musique, à l'art aussi, parce qu'il y avait un rapport avec le pop art, il y a des tas de choses, etc., à travers un mouvement culturel, comme ça, une sous-culture, effectivement, qui est d'origine plutôt prolétaire, etc., ou classe moyenne. Et donc, c'est s'éveiller à soi-même dans un groupe social, etc. Ce qui est plus intéressant qu'être isolé. Je dis ça parce qu'en fait, pour les gens qui ont participé à ce mouvement, qui ont mon âge maintenant, ça a un peu vieilli, ça, il a un peu disparu le mouvement aujourd'hui. C'est pour tous quelque chose qui a été très très important, très très important. Comment j'aurais pu avoir accès à l'art, mettons, en général, si j'avais pas participer à cette culture-là. Voilà. Ouais. Et moi, je crois qu'un élément très fort, hein, les mouvements culturels, qu'ils soient musicaux, qu'ils soient, etc., sont très, très forts le fait d'échapper à des déterminismes sociaux trop, trop évidents.
On pourrait parler d'un mouvement libérateur. Alors, faut dire que les hommes du mouvement MODS vont chez le coiffeur pour femmes. Enfin, ils franchissent la frontière des genres.
Absolument. Ça, c'est quelque chose qui était très important, effectivement, à l'époque, déjà dans les années 60. Si quelqu'un allait chez le coiffeur, mon père me l'avait raconté, en fait, on choisissait pas sa coupe de cheveux. Il nous rasait. En fait, voilà. Donc, si on voulait avoir les cheveux un petit peu longs, etc., on est obligé d'aller chez les coiffeurs pour femmes.
Ouais, c'était le passage obligé. Et alors, dans votre roman, est-ce qu'on pourrait parler aussi du roman d'un homme sans qualité ? Parce que finalement, votre personnage, qui décide de pas s'habiller au départ, mais enfin qui est très sensible aux habits, qui est très sensible au langage, finalement, il va trouver petit à petit son propre langage vestimentaire, corporel.
Absolument. Quand je parle d'un mouvement culturel, important de mouvement culturel, c'est ça en fait, c'est trouver son propre langage, son propre vocabulaire, qu'est-ce qui vraiment nous définit aussi, en dehors des déterminismes, du travail notamment, du travail, voilà, ça c'est la question du travail, comment sortir aussi, en fait, d'ailleurs la question du travail chez les modes, elle est très très importante en fait, hein. C'est une transition entre la fin des études ratées souvent et le début du travail, comment se construire à ce moment-là. Alors, je ne sais plus ce que je voulais dire.
Non, non. Mais moi, en vous lisant, Cyril Martinez, j'ai pensé à cette phrase de Cocteau qui dit qu'il faut toujours se fier aux apparences. Et il y a un autre proverbe qui dit « l'habit fait bel et bien le moine ». Mais on pourrait dire que l'habit fait le personnage de roman. Et au XIXe siècle, par exemple, Balzac accordait une grande importance à l'habit.
Absolument, là, ça me fait plaisir que vous parliez de Balzac, parce que Balzac, effectivement, c'est très très important, l'habit, il a écrit d'ailleurs un traité d'élégance parmi tout ce qu'il a écrit. Quand on lit Illusion perdue, par exemple, on voit tous les codes de vêtements, etc., quand le personnage va au théâtre, etc. Et en fait, le vêtement a été un petit peu méprisé, je pense, par la littérature, notamment, à mon avis, à cause d'un texte de Roland Barthes, Le système de la mode. Dans Le système de la mode, en fait, Roland Barthes analyse la mode, brillamment, évidemment, mais avec un peu de mépris. C'est-à-dire que pour lui, c'est un système de code. C'est un structuraliste. Un système de code, on décode. Et en fait, il enlève une dimension, je pense, très très importante, qui est le rapport affectif qu'on peut avoir avec des vêtements. On peut avoir un rapport affectif avec les vêtements. C'est aussi une expérience sensible, évidemment. L'habit, on choisit les matières. Effectivement, c'est quelque chose qui anime le corps. Il y a tout ce rapport que j'ai voulu décrire là-dedans. Alors, c'est superficiel, évidemment. C'est le propre d'un vêtement. C'est un artifice. Mais comme disait un autre structuraliste, effectivement, on peut avoir des rapports superficiels qui sont complexes. Voilà, qui sont complexes, effectivement.
Oui, puis c'est une sémiologie, enfin. Alors vous écrivez, Cyril Martinez, les vêtements n'ont d'intérêt que porter. C'est vrai qu'un habit, le textile, c'est comme une feuille de papier. C'est comme un buvard, c'est comme quelque chose qui vous... C'est une seconde peau.
Absolument, c'est vraiment l'idée de seconde peau, c'est-à-dire en fait, moi je suis un peu d'accord avec ça quand je repris ça, j'ai lu, c'est pas moi qui l'ai inventé ça. Il y a en ce moment un intérêt sur le vêtement porté, effectivement, oui. Plutôt que le vêtement effectivement sur cintre, hein, effectivement, je sais plus qui disait en fait un vêtement sur cintre, c'est C'est rien, en fait. En fait, c'est quelque chose à qui il manque un élément. La parole, en quelque sorte. C'est comme une feuille blanche, vous avez raison. C'est une feuille blanche. Et ce qui est intéressant dans le vêtement, c'est le moment où il est animé par le corps. Voilà. C'est là où ça devient intéressant.
Et comment le porter?
Et comment le porter? Effectivement, il y a ce style, Balzac. On ne naît pas élégant, on le devient. Non, c'est l'inverse. On ne devient pas élégant, on est élégant. En quelque sorte, il y a quelque chose qui est dans le style. Je parle à un moment de... Alors, je m'étais posé la question du dandysme. Et dans un premier temps, le dandysme me semblait pas adéquat. Mais parce que j'avais une fausse idée du dandysme, j'associais le dandysme à l'excentricité bourgeoise. Et en fait, c'est pas ça du tout. En réalité, c'est totalement faux. Au contraire, c'est une forme d'austérité, etc., qu'on voit chez Baudelaire, qu'on voit notamment chez Brummel. Mmh. Brummel, qui était à l'époque vraiment celui qui dominait la mode dans la cour anglaise, etc. Et Brummel, qui était d'extraction très modeste, s'habillait de rien. Il s'habillait de rien, on ne sait même pas de quoi il s'habillait. C'était des vêtements extrêmement, d'abord reprisés, assez abîmés, extrêmement sobres, etc. Mais il avait une telle élégance, il avait une telle façon d'être, que tout le monde était stupéfait par son élégance. Et il répondait d'une certaine façon par une excentricité, comme pourrait dire quelqu'un qui va mettre des marques, etc., qui va ajouter des trucs. Mais en fait, c'est pas ça. C'est pas ça le style.
Alors, il y a aussi des personnages. Je voudrais que vous me présentiez vos personnages, Cyril Martinez. Alors là, il y a un clown neurasthénique à un moment. Il y a Joe à qui manque une dent et qui recherche la cravate idéale. Il y a Paul Chaussette, expert dans l'art de la chaussette dépareillée, qu'il nomme Achille et Hippolyte. Walter, qui possède un vêtement culte, l'habit noir. Est-ce que ces personnages de fiction sont calqués sur des vrais modèles, sur des vrais personnages, ou est-ce que ce sont des mixtes? Vous avez pris des ingrédients d'un tel personnage et puis après vous avez créé vos propres personnages. Comment avez-vous créé ces... J'allais dire, c'est un peu, vous savez, autrefois il y avait des... Puisqu'on parle d'habits, il y avait des petits poupons, des petites poupées avec les habits qu'on découpait et qu'on mettait sur ces prototypes de personnages. Comment avez-vous créé vos personnages, Cyril Martinez?
Eh bien, c'est des personnes que j'ai connues, toutes. Après, effectivement, ça correspond pas forcément à un personnage. Parfois, j'ai pris des éléments d'une personne et de l'autre pour créer un personnage, voilà. Voilà, c'est à peu près ça. Oui, c'est... Mais c'est des personnes que j'ai connues. J'ai tenu aussi à les mettre, en quelque sorte, à décrire les endroits où ils vivaient. Ça me semblait important. Voilà, les endroits où ils vivaient, qui sont des HLM, une maison pas finie, etc. Voilà, et ça, il y avait souvent un fort contraste entre des personnes qu'on voyait extrêmement élégantes, etc. Et puis, en fait, quand on allait chez eux, on se rendait compte que c'est des gens qui étaient en difficulté sociale, souvent, on pourrait dire. Mais non, c'est que des personnages que j'ai croisés. À peu près tout ce que je dis dans le livre est vrai, d'ailleurs, est arrivé, sauf la fin, quand ça part vers l'imaginaire.
Oui, et il faut dire qu'il y a un lieu qui est central, c'est un lieu où vous avez travaillé, où vous travaillez peut-être toujours, c'est la bibliothèque. C'est un lieu de prêt, où l'on emprunte certaines vies écrites. Vous écrivez, vous en connaissez beaucoup des lieux en France qui vous laissent entrer sans rien vous demander, qui n'exigent pas que vous décliniez votre identité, qui ne vous réclament ni argent ni carte d'inscription à jour, qui ne cherchent pas à savoir pourquoi vous venez là, qui ne font pas peser la suspicion dès que vous franchissez le seuil. Vous en connaissez des lieux qui acceptent tout le monde sans condition d'âge, de culture, de savoir, de revenu, de langue, de niveau de langue, de nationalité. Bienvenue à la bibliothèque municipale. Et c'est vrai que finalement aussi, c'est une peau d'emprunt. Enfin, c'est une vie qu'on se crée, mais il y a cette notion d'emprunt, de passage.
Alors, je n'avais pas fait cette analogie, mais je vous remercie de l'avoir dit, parce que je la trouve extrêmement juste. Alors, je suis bibliothécaire, évidemment, et je suis un grand militant de la lecture publique. Hein. Ça, c'est évident. Je tenais beaucoup à ce passage. Parce que c'est une évidence, en fait. Il y a le seul endroit qui nous accepte en France sans rien nous demander, rien. Ce sont les bibliothèques municipales, il n'y en a pas 50 000, voilà, il n'y en a pas 50. Donc en ça, je trouve que c'est des lieux formidables, quoi. Je suis un grand militant et c'était important pour moi que le personnage soit aussi bibliothécaire. Ça permettait évidemment aussi de faire le lien entre la partie un peu intellectuelle. Pourquoi il aime Baudelaire?
Oui,
parce qu'il est aussi bibliothécaire. Pourquoi? Voilà.
Voilà ce que vous... Alors, il y a cette notion aussi de panoplie de la vie, je dirais, Cyril Martinez. Un pantalon en velours orange à la place du jean, une chemise hawaïenne plutôt qu'une marinière, un haut de survêt remplace la veste en coton, et dans la glace, cette fois-ci, je vois un clown neurasthénique. Il y a cette notion de reflet, de comment on se prépare pour s'habiller. Alors, le dandy peut mettre une matinée pour s'habiller, je suppose. Puis, il y a l'homme pressé qui va mettre moins de temps. Mais cette notion de se préparer au regard d'autrui, je crois qu'elle est très importante dans votre roman.
Absolument, absolument. Et quel regard on a sur soi, et quel regard on essaie de renvoyer à la société. Voilà. Alors on ne maîtrise pas tout, évidemment. Alors qu'on était jeunes, on était absolument harcelés. Le livre se passe dans les années 90. Dans les années 90, honnêtement, on se insultait en permanence, en fait. Voilà. C'est-à-dire que la société, par des gens de notre âge, en fait, ils étaient extrêmement conformistes, en fait. Donc, c'était assez drôle, en fait, de renvoyer, de voir le conformisme et la peur qu'on pouvait exercer vis-à-vis des autres. C'était incroyable, en fait, voilà. Alors, l'homosexualité était moins visible qu'aujourd'hui, et elle était absolument proscrite, honnie, crainte, etc. Donc, moi, même si je suis pas homosexuel, ça nous amusait beaucoup de se tenir la main, puisque tout le monde nous traitait de pédé, on le faisait, en fait. Et là, dans les petites villes comme ça, où j'habitais, Avignon, c'était vraiment, mais les gens n'en revenaient pas. Donc, il y avait, voilà, il y avait un petit peu, et le soin de soi, l'attention qu'on pouvait porter, qui était excessive et, en fait, un petit peu rigolote. On était un petit peu sérieux, mais en fait, ça nous faisait quand même assez marré de provoquer le bon goût.
Et puis aussi, il y a cette notion, voilà ce que vous écrivez, de carapace, j'allais dire. Ce qui m'est arrivé, eh bien, je me suis trouvée en incapacité totale de m'habiller pour sortir. Est-ce mon corps qui a rejeté mes vêtements ou mes vêtements qui ne voulaient plus de mon corps? Est-ce que le problème venait de l'intérieur ou de l'extérieur? Aucune idée. Toujours est-il qu'en incapacité de me vêtir, j'étais reclue dans ma chambre et pour couronner le tout, les livres me tombaient des mains, les musiques me sortaient des oreilles, bref, 3 mois de vide à bloquer sur un tas de fringues jetées par terre. Alors on pense à la carapace, on pense à Kafka, on pense à une sorte de métamorphose finalement par l'habit.
Alors, j'avais pas pensé à Kafka, mais Kafka est tellement important pour moi que forcément ça ressort à des moments, évidemment. Il y a une carapace sociale, évidemment. Et là, ce personnage se retrouve, évidemment, sans rien, dans la dépression, sans rien. Donc évidemment, l'habit peut être une protection. Et là, le personnage, ne pouvant plus s'habiller, est absolument...
démuni.
Complètement démuni. Et voilà. Donc, il a perdu une partie du langage. Alors moi, j'ai fait une dépression qui n'était pas exactement celle-ci, mais j'étais aphasique. Donc, j'ai connu des moments de perte de langage absolue à cette époque-là, quand j'avais à peu près la même période, 22 ans, un truc comme ça. Voilà, donc je me suis rappelé de ça, et évidemment, l'impossibilité pour moi de lire pendant plusieurs mois, qui était terrible, c'est-à-dire m'enlever ce qui m'était le plus cher, quoi, voilà. Et
Vous dites rien n'est plus terrible que le rien. C'est vrai qu'il y a des passages à vide. Et puis alors, je voudrais qu'on parle de la construction de votre roman, puisque les têtes de chapitre sont des accessoires ou des voilà, c'est une parka. Il y a une parka démilitarisée, une demi-cravate noire, les chemises des WoW, un pantalon José Robles, un tailleur pour homme, les chaussettes de Paul, voilà, une paire de mocassins blancs ou cartoufles, Léo Cabléo, une cape, une ceinture blanche au cuir véritable, et enfin l'habit noir qui est un peu une sorte de clin d'œil, on verra tout à l'heure à Baudelaire, mais l'habit du poète, on va dire, l'habit du poète. Mais c'est une construction un peu comme une chanson, en fait, un peu comme un film.
Alors effectivement, le livre a pris tout son sens quand j'ai trouvé cette construction, et cette construction elle est liée au titre, voilà, ouais. Tout s'est construit à ce moment-là. J'aimais bien l'idée que chaque chapitre effectivement soit un élément du vestiaire masculin, et de trouver une petite aventure autour à chaque fois d'une parka, d'une paire de chaussures, des chaussettes, d'une ceinture, etc. Voilà. Je trouve que c'est une façon qui pour moi a été structurer ma pensée et me permettait de construire le livre de façon non linéaire, d'une certaine façon, mais que les rubriques puissent fonctionner comme ça. Et puis que chaque partie, chaque élément du vestiaire puisse être un élément d'aventures, de relations sociales, voire de pensées, m'intéressaient beaucoup. Voilà, c'était simplement... J'ai besoin de structures comme ça, assez net, assez franc. Je peux pas écrire un roman comme ça, qui de A à B, où j'y arrive pas, enfin, je trouve que ça m'intéresse pas, en fait. Donc j'ai besoin de...
Est-ce que pour vous, l'accessoire est essentiel? Parce qu'il y a un jeu, quand même, c'est très ludique, votre livre.
Ah oui. Ah ben, l'accessoire, c'est ce que les modes appelaient l'accessoire, l'élément sublime et ridicule, le détail sublime et ridicule. Et donc, dans cet habit qui pouvait être un petit peu conformiste, parce que les modes adoraient les conventions, le costume, par exemple, la convention du costume, mais ce costume-là n'avait d'intérêt que s'il était ridiculisé par un élément, en quelque sorte, un peu voyant, un peu vulgaire, une bague en toc, ou je sais pas quoi, des badges, des trucs, on mettait des chaînes, je me rappelle, en bas des pantalons, quoi. Une espèce de truc qui voulait rien dire, qui était absolument un élément. Et donc le détail avait beaucoup d'importance pour dire qu'en fait, il y avait un léger décalage par rapport aux conventions du vêtement masculin.
Ouais. À la fois le soin porté à son vêtement, enfin à sa tenue, et la négligence. Enfin, il y a en même temps une négligence étudiée. Enfin, c'est ça aussi qui fait la mode.
Il y avait une négligence étudiée, mais aussi une négligence involontaire, parce qu'en réalité, on s'habillait que de vêtements pourris qu'on achetait aux puces, en fait, très très peu cher, au marché, etc. Donc en fait, on était d'une certaine façon comme Brummel, en fait. Si on apparaissait élégant de loin. Mais dès qu'on s'approchait, tout était rapiécé, déchiré, c'était un peu pourri. Ce qui donnait un style, c'était avant Margiela, où ce truc, c'est devenu à la mode, en fait. Ça a été volontaire, mais là, c'était absolument involontaire. Et ça donnait un petit élément comique, en fait, une espèce d'élégance, mais au fond, on était un peu crado, quoi.
Oui, c'est une sorte de puzzle, de patchwork, de la vie. Bon, où il y a aussi l'inné et l'acquis, parce que ça aussi, il y a ce soin toujours. Il n'y avait pas 36 manières de s'en sortir, dites-vous, selon Lorraine. Soit je change de look, soit je change de corps, soit je me relook.
Oui, c'est ça. C'est ça, ouais, c'est...
C'est le quitte ou double du jeu des apparences. On va faire une petite pause musicale.
Allez.
vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, vous écoutez l'émission Bibliomanie, aujourd'hui en présence de Cyril Martinez, qui vous dit tout sur son dernier roman, Comment habiller un garçon, ça vient de paraître dans la collection Verticale chez Gallimard. Alors Cyril Martinez, c'est vrai que je parlais tout à l'heure de l'inné et de l'acquis, de ce qui nous est donné et ce que nous allons construire. Et c'est très présent dans votre roman. Je pense à cette phrase de Balzac, je pense que vous citez, un homme devient riche, il est élégant. Il est élégant. L'élégance de la vie, le fait d'être bien dans son corps, le fait d'être souple, c'est un peu la thématique, le fil rouge aussi de votre personnage.
Absolument, oui, tout à fait. Le fait d'être, de trouver une identité sociale est un élément dans lequel on se sent un peu bien. Je pense que les vêtements participent de ça, et pas simplement les vêtements, mais en tout cas c'était la question. Après, ce qui m'a intéressé aussi, c'est vrai que c'est le vêtement, on en parle moins du vêtement masculin. Voilà, c'était aussi un élément important, autant la mode féminine est absolument saturée, on pourrait dire, d'éléments de langage. Elle est plus importante, elle est beaucoup plus importante, évidemment, et plus intéressante en général. Mais la mode masculine, au sens large, c'est-à-dire la mode populaire, pas simplement le, me semblait intéressante. Notamment au début, je pourrais revenir sur un élément qui m'a semblé important, c'est-à-dire quand le personnage sort de sa dépression et dit « je vais me retrouver, maintenant je vais m'habiller ». Donc il ne va pas dans les magasins, il ne va pas dans les boutiques, il ne va pas regarder dans un magazine de mode, il va dans la rue. Et ça me semblait très important parce que pour moi, c'est comme ça que ça se passait d'ailleurs pour beaucoup à l'époque et sans doute aujourd'hui, on regarde comment les gens s'habillent dans la rue en premier. Voilà.
Ouais. D'ailleurs, voilà ce qu'il dit, hein, je pense que c'est lui. À partir d'aujourd'hui, je m'habillerai de fripe. J'irai sur les marchés, chez les soldeurs, dans les surplus et les déstocks. Je fréquenterai les pires boutiques de mode. J'aurai honte de rien. J'irai là où les mamies s'habillent. Je ne serai pas non plus regardant sur l'état des habits. Je porterai de l'usé, du rapiécé, du taché. Je m'habillerai de rebut pour en faire des attributs d'été, d'élégance. Voilà, donc c'est vrai que c'est le fait de prendre des vies avec soi. Mais en vous parlant, je pense que quand c'est vrai que le vêtement, c'est aussi ce qui reste quand on a tout oublié. Par exemple, quand quelqu'un disparaît, on va chez quelqu'un de sa famille, par exemple, et on ouvre le dressing, on ouvre la penderie. Et là, on a tous ses vêtements, toutes ses vies.
Je ne sais plus où j'avais lu, en fait, quelqu'un qui disait qu'une penderie, c'était une collection d'émotions. En effet, le vêtement, on l'associe toujours à quelqu'un, et notamment, vous avez raison, après un deuil, c'est des premières choses qu'on voit, les vêtements de la personne qu'on aimait, dont on était proche. Et il y a beaucoup d'émotions. Moi, j'ai gardé, je sais pas, les chaussures de mon grand-père, par exemple, que j'aime beaucoup, quoi. Voilà, je les adore, elles sont très importantes pour moi. Voilà. Ouais, c'est ce rapport émotionnel aux vêtements.
Aux vêtements, justement, qui, quand un corps n'est plus là, le vêtement est là, est toujours là.
Il est en attente. Il est en attente. Du coup, un corps fantomatique, quelque chose qui reste malgré tout dans le vêtement. Hein, voilà. C'est là où le corps a porté son empreinte, d'une certaine façon. Voilà.
Alors, la cravate aussi. Alors, la cravate, voilà ce que vous écrivez. Sur ce point, je dois dire que j'étais quand même un peu d'accord avec mon père. Rien de plus laid que la cravate des meetings politiques. Rien de plus répugnant que la cravate des salons professionnels. Rien de plus sinistre que la cravate des salles de réunion. Rien de plus avilissant que la cravate des entretiens d'embauche. Rien de plus misérable que la cravate des funérailles. Rien de plus grotesque, de plus débile, de plus dégoûtant que la cravate de mariage du tonton qui, après avoir fait bonne figure durant la cérémonie, termine bourré, danse à la con, les bras levés, cravate autour du front et blague grivoise plein la bouche. Donc, une cravate ironique, quoi. C'est vrai que la cravate, c'est aussi un signe d'aliénation. Je parlais tout à l'heure de l'uniforme, on parlait du monde du travail. La cravate.
Ah, la cravate, c'est horrible. Moi, j'avais une angoisse de la cravate. En plus, c'est vraiment, il n'y a rien de plus désagréable que porter une cravate, etc. Voilà, c'était vraiment un truc, et aussi une aliénation absolue. Alors maintenant, ça peut passer de mode, la cravate, elle a disparu, elle existe dans la finance, dans la politique, mais elle a à peu près disparu. Mais quand j'étais plus jeune, on nous disait, mais dès qu'on allait passer un entretien pour n'importe quoi, on disait, mets une cravate, etc. Je me rappelle des fois, j'allais comme ça pour des entretiens, voilà. Et en fait, la personne qui recevait dit, je sais qui je vais prendre, en fait. Et se tourner vers la personne qui avait une cravate, sans qu'elle ait ouvert la bouche, c'était horrible. Et donc, pour moi, ça a toujours été un truc d'aliénation, la cravate absolue. Voilà. Et que
vous en rigolez maintenant.
Ah, mais j'en rigole. Même si à l'époque, on les portait, mais on trouvait ça assez drôle quand on avait 16 ans de porter des cravates. Des cravates abîmées, à moitié déchirées, etc. On trouvait ça assez marrant parce que c'était complètement inattendu. Voilà.
Alors, je me suis aussi posé une question, c'est que... bon, votre personnage se cherche un code vestimentaire, son identité vestimentaire, et vous, en tant qu'écrivain, c'est-à-dire que quand on commence à écrire, on peut aussi endosser des habits qui ne vous correspondent pas. On peut aussi endosser l'écriture de tel ou tel écrivain, ou tel romancier. Est-ce que vous avez eu des périodes aussi d'écriture, Cyril Martinez, des phases d'écriture où, qui ont été finalement comme des habits que vous avez soit endossé la tenue d'Arlequin, soit la tenue de l'écrivain sérieux. Est-ce que vous avez eu des périodes comme ça, de recherche, d'emprunter une peau littéraire différente de la vôtre?
Eh bien, je crois qu'on commence comme ça, par emprunter des peaux littéraires, comme vous dites, justement. Effectivement, on commence par imiter, mais je pense qu'imiter, c'est le cas de tout le monde. Quand on fait la musique, on commence par faire la reprise du groupe qu'on aime bien, ou je sais pas trop quoi, ou faire, etc. Donc, on passe par ça. Évidemment, ça sonne mal. C'est toujours...
Et pour vous, les premières peaux littéraires, c'était lesquelles? Les premiers emprunts littéraires?
Alors, je peux pas dire les grands écrivains que j'aime bien, mais... Alors, il y en a un qui a été absolument terrible par son génie, c'était Pérec. Et Georges Pérec, ouais. Il a fallu que j'en sorte, parce que Pérec, c'était parfait. C'était parfait, il y a tout dans Pérec. Ouais. Il y a l'inventivité formelle, une conscience politique, une originalité, etc. Et en plus, c'est drôle. Et en plus, c'est drôle, c'est fou. Enfin, je veux dire, c'est un écrivain que je ne lis plus, que j'aime énormément, mais il a fallu s'en détacher, parce que sinon on n'y arrive pas, sinon c'est pas possible, voilà. Un autre qui est important pour moi, c'est John Giorno, qui est un poète pop, enfin, qui a commencé avec le pop, qui était un petit peu un second couteau de la Beat Generation, et qui plus tard est devenu une célébrité assez tardive, mais très forte, et ça me semblait parfait, c'est-à-dire c'est la poésie qu'il lit en direct, de façon extrêmement directe, etc. Une adresse directe au public. Je me dis, mais c'est ça, c'est absolument parfait. Donc voilà, deux modèles, en fait, terrifiants par, ouais. par leur puissance. Voilà. Je parle même pas de Kafka, parce que Kafka, c'est vraiment c'est une puissance intellectuelle qui est tellement forte, tellement... Enfin, je veux dire, c'est... Il faut faire attention. Il faut faire attention. Voilà, j'ai une admiration infinie pour ces écrivains, mais Kafka, je suis revenu à le lire. Mais Pérec, je m'en méfie. Je suis pas le seul. Pour beaucoup gens de mon âge, en fait, Pérec a été écrasant, quoi. Voilà.
Bah, Pérec, il y a le jeu aussi. Il y a le sens des alliages, de l'alchimie, des alliages. Parce que finalement, vous amusez beaucoup, vous écrivez. Moi, si je devenais bibliothèque caviste, bonjour, nous vous proposons aujourd'hui un Proust 1918, ample, charnu, épanoui, arrière-goût de madeleine, idéal pour un repas interminable. Si vous aimez les choses de caractère, je vous conseillerais plutôt un Rimbaud 1870, floral, capiteux, mordant, parfait pour un apéro musclé. Donc, vous avez ce sens de la nuance, vous aimez décliner un peu toutes les nuances de la vie. Là, c'est le vêtement, mais...
Oui, et là, en l'occurrence, je me moque, en fait, d'une conception de la littérature, c'est-à-dire une littérature dégustative, en fait. Ouais. Hein. Vous savez, c'est un petit peu ce qu'il y avait, je me rappelle, à l'époque, de chez Pivot, qui aimait bien le vin, Bernard Pivot, et c'était toujours, lisez-nous un extrait, la première mettre en bouche, etc. Ouais. Et c'était une espèce de goût bourgeois à la littérature qui m'insupporte, en fait. Voilà. C'est pas quelque chose qu'on déguste, comme ça, la littérature. Non, je pense qu'elle nous permet beaucoup plus de choses, en fait. Et ça renvoie à une idée... du beau style, du machin, du truc, tu vois, vraiment la distinction de l'auteur qui va trouver son originalité, qui va séduire à travers une belle phrase. J'ai horreur des métaphores. Par exemple, en tout cas celles qui sont décoratives. Même s'il y a une très grande métaphore qui est pour moi une des plus grandes littératures, c'est la métamorphose de Kafka, où il part d'une insulte que prononce souvent son père, le brutal Hermann Kafka, qui traîne les gens de vermine. Vermine, c'est une vermine, c'est vermine. Et dit, ben voilà. Il va réaliser la métaphore, quelqu'un va devenir une vermine. Voilà. Ça, c'est une métaphore extrêmement puissante. On peut difficilement faire mieux que ça. Et là, pour le coup, c'est pas une littérature décorative. Voilà. Moi, j'ai horreur de cette littérature décorative. Voilà. La belle phrase qu'on déguste. Non, c'est pas du vin, la littérature.
Oui, mais il faut aussi se méfier. Est-ce que vous vous méfiez de facilité de style? Parce que le vin, l'ivresse, on peut aussi s'enivrer de ses effets de style.
Oh, mais oui, et quand je me corrige énormément. En fait, je dis des choses parfois à mes éditeurs, mes amis, je dis, en fait, j'enlève ce qui est littéraire. Ça les fait rire. Je dis, bon, en fait, j'enlève tous les effets littéraires. Je sais pas pourquoi, il y a un truc comme ça. Je sais pas comment font les autres écrivains, mais dans une premier style, j'ai tendance à écrire littéraire. Je sais pas pourquoi, tu vois. De moins en moins, heureusement, mais, et après, j'enlève ça. Après, je brutalise mon texte. Je le détruis, même. C'est comme si je détruisais un texte.
Vous le taillez plutôt. Parle de tailleur, donc. Il y a la coupe.
Dans un premier temps, je le détruis complètement, en fait. Je fais une première version que j'ai, c'est comme si j'avais fait une sculpture, je l'avais cassée, et après, je la recompose à partir d'éléments. Mais oui, je me méfie beaucoup, de moi. De mon écriture, des effets de séduction trop faciles ou des effets littéraires trop évidents. Voilà, j'essaie d'être direct.
Toujours au sujet de la cravate. Hein. Maintenant, il me doit la vérité, la cravate dont je rêve n'existe plus. La cravate noire élémentaire a été retirée du marché. Elle a disparu au profit des motifs fantasy. Titi et Gros Minet ont tué la cravate noire. Donc il y a plein d'anecdotes comme ça, c'est pour ça c'est très ludique. Après vous écrivez dents cassées et cravate coupée, symétrie involontaire, j'ai trouvé mon style, dents cassées et cravate coupée. Donc avancez un peu de guingo à votre personnage, il est sur le fil de la vie mais il n'est pas toujours stable sur ce fil.
Ah oui, absolument. C'est-à-dire en fait, quand on était modes et jeunes comme ça, qu'on faisait des trucs en fait... On faisait des choses, c'était toujours un peu raté en fait. C'est comme si on avait des ambitions, mais pas les compétences pour les faire. Donc tout était un peu à côté en fait. Et voilà, je voulais le retranscrire quoi, ce côté un peu bancal quoi, voilà, qui était alors je sais pas si le propre d'un mouvement juvénile. En tout cas, moi c'est comme ça que se passait ma jeunesse. Mais on arrivait quand même à faire des choses. C'est marrant. On partait comme ça à l'étranger. On avait rien. On se perdait, etc. C'était absolument un week-end catastrophique. Et puis on revenait, c'était super, en fait.
C'est l'arte povera, l'art du peu.
Oui, après l'arte povera, ils ont vocabulaire qui est quand même sophistiqué. Ouais. Donc, mais il y avait un truc comme ça, ouais.
Une sorte de philosophie de la vie où on se contente de rien et on rebondit.
Alors je dirais, oui, absolument, vous avez raison. L'art pauvre, c'est-à-dire l'art pauvre de moyens, m'importe beaucoup. Et je pense que la littérature l'est. On peut faire des choses avec peu d'argent. Écrire un livre, au fond, ça coûte pas, ça demande du temps, évidemment, mais pas grand chose en termes techniques, etc. Moi, je fais de la poésie performance aussi, et une poésie performance, en fait, ça demande rien, ça demande un lieu, éventuellement un micro, et encore, voilà. Si vous pensez au théâtre, faites une pièce de théâtre dans une institution, vous allez voir. Les dossiers, les machins, les gens à convaincre, etc., ça va être de un an, deux ans de travail pour monter un projet, pour, alors qu'en fait, on fait ça avec rien, en fait. D'une certaine façon, cette façon d'être des modes, voilà, c'est celle que j'ai adoptée, en fait, d'une certaine façon, dans la littérature, en fait, voilà. Ça coûte rien, ça coûte juste du temps. Et je trouve que malheureusement, on pourrait dire qu'il y a moins d'argent dans la culture. Ça, c'est dramatique pour les gens qui étaient professionnels. Mais du coup, moi, personnellement, je suis pas impacté parce qu'en fait, je demande rien. En fait, voilà. Ça n'empêche pas de produire, en tout cas. Voilà, des choses.
Des choses et surtout. Alors, vous parlez de Tristan Tzara, à un moment donné, puisqu'on parle poésie. Une photo en noir et blanc de format A4 accrochée au-dessus du lit attire mon regard. Tristan Tzara en cravate et chemise claire, veste sombre, monocle, une mèche brune ondulée, tombant sur le front. Souci de soi, maintien parfait, sophistication, affectation. Voilà, une phrase accompagne l'image. Est-ce que vous avez des photos d'écrivains chez vous ? Est-ce que vous êtes sensible ? Est-ce que vous avez regardé aussi la façon dont pose un écrivain vis-à-vis du photographe ? Enfin, il y a des scénographies. Il y a même on peut aller sur l'INA, on peut voir des documentaires. Est-ce que ça vous intéresse ?
Oui, évidemment, les photos d'écrivains que j'aime me touchent beaucoup. J'en aurais pas chez moi, jamais de la vie, c'est trop impressionnant. Si je commence à mettre une photo de Rimbaud chez moi, j'ai l'impression que j'arrête d'écrire, quoi. C'est pas possible. Mais je suis évidemment très, très sensible aux photos, surtout quand elles sont banales, en fait. C'est là où c'est mieux, en fait. Une photo de Kafka, là, où il est en vacances et tout. Je trouve qu'on est un écrivain très important quand il est, dans une situation extrêmement banale, la vie quotidienne, c'est là où c'est fort, en fait. Quand il pose, etc., voilà. l'image du grand écrivain, même celle de Baudelaire devant Nadar, etc. Même si j'aime bien ces images, évidemment, elles me touchent. Mais on voit le poète, la mise en scène du poète, etc. Alors chez Zara, elle est un peu drôle, en fait. Elle est tellement affectée.
Et puis, alors, il y a cette phrase. Je maintiens toutes les conventions, les supprimer serait en faire de nouvelles. Voilà. Et la phrase qui accompagne la photo.
Ah ben c'est un peu le génie, la formule de Zara. Ouais. Évidemment, il n'est pas Dada pour rien. Il a participé au Manifeste Dada pour rien, qui est un livre assez génial. Le Manifeste Dada, c'est hilarant. Évidemment, c'est une provocation par la normalité qui est absolument fausse et affectée, etc. Mais que je trouve très très drôle. Alors ça, c'est une réponse complètement d'avant-garde. Ouais. Voilà, c'est.
Et alors c'est vrai. Alors vous parlez aussi du Cyril Martinez, du repassage. Ça c'est souvent un casse-tête le repassage, à cause des plis bien sûr. D'abord, pour qu'un repassage soit réussi, il convient de soigner la bande son. Autrement dit, la première chose à faire avant de se mettre au travail est de choisir la musique adéquate. Alors c'est vrai qu'il y a des gestes pour le repassage. On voit nos mères ou nos grand-mères, je sais pas. Hein. Et est-ce que ça... Et alors ça m'a fait penser aussi. Je me suis dit, est-ce que Cyril Martinez il écrit en musique ou en silence? Enfin voilà, il y a ça. C'est un petit rituel que vous, ce rituel du repassage sur lequel vous vous attardez un tout petit peu.
Je m'y attarde un petit peu parce que je trouvais ça, d'abord parce que je repassais moi-même, ouais. Et que tous nos amis repassaient, genre la grande joie de nos mères d'ailleurs qui étaient ravies parce qu'on les déchargeait d'un certain nombre de travaux dévolus aux femmes en général, que nos pères ne savaient absolument rien faire et nous on faisait un peu de couture et on faisait du repassage, etc. Donc on était, donc ça, nos mères étaient ravies etc. qu'on fasse ça. Et donc là je me suis dit, tiens, sur le repassage je vais mettre un petit peu mode emploi, voilà, parce que moi, j'ai appris à repasser, on m'a appris, et c'est pas ma mère qui m'a appris, c'était des copains. On s'apprenait comme ça, voilà. Je me rappelle une autre anecdote comme ça, je l'ai pas mise dans le livre, mais ma mère avait une machine à coudre. Et autour de chez moi, il y avait une espèce de trafic de copains qui venaient emprunter la machine à coudre, etc. Ma mère, elle était folle. Mais à qui tu l'as prêté encore, nanana? On aurait dit qu'autour de chez moi, il y avait une espèce de trafic de drogue ou de je sais pas quoi. Mais en fait, non, c'était un trafic de machine à coudre. Alors, vous voyez des types un petit peu comme ça, virils, qui arrivaient et ils prenaient la machine à coudre. Donc, tous, on savait un peu coudre, en fait. Ouais. Et ce qui était drôle dans ce truc mode, il y avait un côté un peu viril, on boit des bières, on se bagarre, etc. Et en même temps, on fait notre passage, on fait notre petite couture, on ajoute notre truc, tac, tac. C'était ce qui était tout à fait réel, hein, j'invente rien. Voilà.
En plus, vous renversez justement une idée reçue, parce que ça, c'est plutôt des affaires de femmes, de féminité. Vous montrez qu'un homme, finalement, est sensible aux apparences, est sensible à... Vous dites, et par-dessus tout, j'aime m'habiller. S'habiller mérite réflexion. Ce n'est pas quelque chose que je prends à la légère. J'accorde une grande attention aux coupes et aux couleurs. Je suis sensible aux matières. Les éléments invisibles d'une pièce participent au plaisir que j'ai à l'endosser. J'aime quand les tissus me collent à la peau. Un tissu agréable, une coupe précise, un point de couture complexe, interaction entre la matière et le corps. J'aime l'expérience tactile de ces secondes peaux. Et ça, on l'attend plutôt du côté féminin. Et vous montrez que non, c'est partagé par les hommes aussi. Donc,
Absolument, je vois pas pourquoi ce serait le propre et des... Voilà, il n'y a pas de raison objective, en tout cas pour moi. Et après, alors là, du coup, ça définit une mode non ostentatoire, oui. C'est-à-dire ce qui est l'élément, c'est la façon dont on est bien dans ce vêtement et pas de façon dont elle va forcément nous faire briller dans la rue, en fait. C'est comme ça que, donc je suis très attentif évidemment aux matières, mais je pense comme tout le monde, effectivement, ça change beaucoup une matière particulière. Voilà. Là, c'est un extrait qui fait référence à les trois jours, c'est-à-dire le moment où on se présentait à l'armée, etc. Et là, c'est un extrait, à part le courrier, les courriers qui sont inventés, le reste est vraiment arrivé. C'est-à-dire, évidemment, aller à l'armée, c'était une angoisse absolue. C'était absolument terrifiant. Moi, j'étais en plus extrêmement fragile psychologiquement et me retrouver dans une caserne pendant un an et je savais ce qui allait se passer entre mecs, c'était absolument hors de question pour moi. Donc je suis allé aux trois jours, en fait, extrêmement habillé, extrêmement fringué, avec des couleurs, avec des écharpes, des machins, des trucs. J'avais un foulard, avec un cercle, des bagues, etc. Et on m'a réformé à cause de ça, en fait. Voilà. Ça a absolument fonctionné, j'étais ravi.
Donc ça marche très très bien, de jouer sur l'apparence vestimentaire pour faire passer un message.
Absolument, ça faisait passer un message, exactement.
Alors voilà, on dit les goûts et les couleurs. Voilà ce que vous écrivez, Cyril Martinez. Au niveau des couleurs, je me méfie du blanc, le grenat me dégoûte et l'acajou m'écœure. Le navi me rebute et la clémentine me ravit. Le pétrole m'intrigue et le bleu piscine m'irrite. Le vert olive m'amuse et les fleurs me rassurent et les carreaux m'inquiètent. Et les pois m'intriguent et les rayures me détendent et les zébrures me gonflent et le léopard me choque et les wax me perturbent. Ça, c'est rigolo, parce que vous montrez vraiment l'effet de la sensation sur notre humeur du jour.
Exactement. Vous avez très bien résumé, je ne peux pas dire mieux. Absolument, oui, effectivement. Selon les jours, évidemment, on va être agressé par tel ou tel motif, etc. Voilà. Pour les wax, en fait, il faut savoir que les wax, donc, vous savez, c'est les tissus africains, mais ils ne sont pas africains, en fait. Hein. Ils sont tous fabriqués en Hollande. Là, pour le coup, en termes d'appropriation culturelle, c'est quelque chose de plus scandaleux. En fait, tout est hollandais. On s'est approprié cette idée du wax, mais en fait, plus rien ne vient d'Afrique. C'est pour ça que je dis, ça me perturbe le wax. Parce que...
Après, vous dites, je serai le roi de la piste de danse, vêtu de complet satiné, équipé de cette doudoune, de cette salopette, de ce sous-pull qui gratte, de cette paire d'après-ski. Je me prends à rêver que je suis en train de randonner dans la neige profonde des années 70. En fait, pour voyager, il suffit de s'habiller.
Absolument. Alors là, je décris précisément quelqu'un qui va acheter des vêtements au marché, le marché aux vêtements où on allait à Avignon, marché populaire, etc., où il y avait vraiment des tonnes de vêtements, effectivement, donc c'était très très peu cher. Et donc, quand on cherchait des vêtements, il y a toujours le fantasme, en fait, si je mettais ça, qu'est-ce qui se passerait, etc. On se projette très vite dans des vêtements, en plus là, c'est des vêtements absolument inattendus. Si je suis dans une boutique, je sais, c'est homogène, en fait, ce qu'ils présentent, c'est homogène. Alors que là, c'est l'hétérogénéité absolue, rien ne va avec rien, on ne sait pas d'où ça vient, etc. Il y a aucune marque, on a assez peu de repères en fait culturels quoi par rapport à ces choses, et donc il y avait une espèce de voyage effectivement à travers le vêtement.
Et donc la séance d'habillage, ça peut être la séance où on endosse un rôle, le rôle de sa vie, pourquoi pas. D'ailleurs, sans parler de Rastignac, dites-vous, tu payes ton tailleur, tu ne seras jamais rien, pas même ministre. Si ça, c'était Balzac toujours. Mais c'est vrai que le rôle de sa vie, enfin, on a des panoplies que les gens, peut-être un peu moins maintenant, je sais.
Si, aujourd'hui, je pense que ça n'a pas changé, bien sûr. Il y a des panneaux obligés, voire des passages obligés, on pourrait dire. Il y a quand même des stéréotypes. Et à un certain âge, on doit s'habiller. Moi, j'ai des enfants adolescents, je vois voilà, comment il faut s'habiller quand on habite en banlieue à Paris. Voilà, il y a des styles, effectivement. Des styles qui sont souvent liés, d'ailleurs, à la... Je ne sais pas si c'est vrai, mais on dit en ce moment que la couleur a disparu, ou les motifs ont disparu. On dit dans une période de crise, en fait, en ce moment, par exemple, les imprimés, ça ne marche plus du tout, en fait, en ce moment. On s'habille de façon monochrome, en fait. Hein, voilà, et on dit que c'est lié, d'après certains, certains spécialistes, à l'état d'une société. Le vêtement va représenter l'état de dépression ou d'optimisme d'une société. Quand on sera optimiste, on va mettre un peu plus d'imprimés.
Et vous écrivez-vous comment? En pyjama, en survêt ou en... Et vous savez, il y a des peintres aussi. La tenue des peintres est très importante quand ils peignent. Et certains, comme Magritte, sont en costard complet, bien habillés, d'autres moins. Vous avez une tenue d'écriture, Cyril Martinez? Peut-être pas, non?
Non, aucune. Non, ça n'a aucune importance pour moi. Je rigole dedans en disant que le personnage a besoin d'être bien habillé pour lire, pour bien lire, etc. C'est une blague, quoi. Mais c'est un peu le... Je parle du souci de soi, mais pour ma part, non, je n'ai pas d'habit fétiche.
Mais le Covid, la période du Covid, est-ce que ça a influencé l'écriture de ce roman? Parce qu'on était obligé de rester chez soi, on était confinés. Donc il y a des gens qui avaient besoin de s'habiller aussi, malgré tout, de se plaire dans la glace.
Non, j'ai pas du tout pensé au Covid, je l'écris bien après. Ouais. Mais oui, il y a Brian Ferry, je parle de Brian Ferry, le chanteur de Roxy Music, là, qui dit qu'il s'habille en costume même pour rester chez lui.
Ouais, voilà.
Alors Brian Ferry, c'est très drôle parce qu'il incarne la classe absolue, presque l'aristocratie anglaise. C'est un fils de mineur, Brian Ferry, et qui a fait ses études grâce à une bourse qui avait été donnée. Hein. Voilà, il a pu aller aux Beaux-Arts, et là, tout a changé. Il est devenu le chanteur de glam extrêmement élégant, alors qu'en fait, c'est vraiment quelqu'un, fils de mineur. Hein. C'est vraiment...
Voilà. Ce que vous montrez, justement, c'est qu'il n'y a pas de... On peut s'habiller avec peu, et qu'il n'y a pas de frontières... Les frontières qui se créent, elles viennent après. Je veux dire que chacun peut choisir, peut se construire son look.
Bien sûr.
Alors, on va faire une petite pause musicale.
something about your smile. I swear that it makes me weak. And when I'm close to you, I find that it's hard to speak. I act like a child of six, and I guess that it shows too well that you got the magic touch, and I'm caught in the spell. You never convinced me that I'd be brave for a pretty sight. But something weird happens when I look into your eyes. I try to defend myself, but too late did I finally see that you got the magic touch and you cast your spell over me. Yeah. No use to deny it when a child can plainly tell that you got the magic touch and I'm caught in the spell. Yeah, yeah, yeah. They call it magic, baby. Yeah, yeah, yeah. It's more like tragic, baby. Yeah, yeah, yeah. They call it magic, baby.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous écoutez l'émission Bibliomanie aujourd'hui avec Cyril Martinez pour Comment habiller un garçon. Ça vient de paraître dans la collection Verticale chez Gallimard. Alors Cyril Martinez, c'est vrai, votre roman est très contemporain. Je dirais presque ça swing. On voit presque les vêtements voler d'un chapitre à l'autre. Il y a des dialogues aussi, des dialogues assez particuliers. Vous écrivez roman, poésie, autre chose. Le genre n'a pas d'importance. Donne-moi quelque chose de bref et qui soit écrit dans une langue ordinaire. Pitié, épargne-moi la langue décorative. Les effets littéraires, c'est affreux, affreux et surtout inutile. À la première métaphore, j'arrête ma lecture. Donne-moi un livre écrit par quelqu'un qui ne se prend pas pour un écrivain. Donc ça, c'est voilà, il y a des... J'ai l'impression que la notion de rythme est importante pour vous. Il y a des travelling, ces notions de... Voilà, on s'attarde pas sur ça va vite, des phrases, des paragraphes, c'est construit comme ça, d'une façon assez, assez contemporaine.
Alors le rythme est absolument essentiel, pas que pour moi, mais en général, je pense dans la littérature, dans un livre, le rythme, dans un film évidemment, mais je vais pas parler de cinéma, c'est absolument capital, évidemment, le rythme. Le rythme qui passe par la ponctuation, notamment, je suis obsédé par la ponctuation et j'arrête pas de dire, ah là, je vais mettre une virgule, puis finalement un point, puis une virgule, etc. Les coupes, etc. sont très importantes. Je viens de la poésie aussi, donc les blancs, les silences, sont capitales, je pense, sont capitaux dans l'appréhension d'un texte, dans la lecture, hein, voilà. Ça, c'est... Et le rythme, évidemment, c'est un truc que je travaille, je coupe, je suis très, très attentif à ça.
Et puis alors aussi, alors il y a un vocabulaire de la mode, des tailleurs, autrefois on allait chez le tailleur. Ok, il est peut-être à 17,5, mais au fond ça ne change pas grand-chose à l'affaire, il y a un problème au niveau du mollet. Tenez, regardez, ça baille. Robles déclare que ça fait longtemps qu'il n'a pas entendu cette expression « ça baille ». Cristobal prend la chose avec beaucoup de calme, il invite la cliente à retirer le tailleur, il la raccompagne à la porte avec élégance et se met à lui expliquer que dans son métier, les mots sont importants. On ne peut pas se contenter d'approximations. La mode est une affaire de vocabulaire, les mots justes pour une penchée juste, pour un geste juste, pour une coupe parfaite. Le mot bailler, par exemple, ne fait pas partie du vocabulaire de la maison Balenciaga. Donc, c'est tout un vocabulaire aussi. Est-ce que vous êtes documenté là-dessus ou pas, quand vous avez écrit Cyril Martinez ?
Alors, je me suis documenté. Ensuite, je me suis fait aider par ma femme qui travaille dans la mode aussi, qui est styliste. Là, je reprends très clairement les éléments de Cristobal Balenciaga, ce qu'il dit. En fait, la mode, le vocabulaire... est très important, et une coupe juste, des mots justes pour une coupe juste. Voilà. Cristobal Balenciaga, qui était quand même un type extrêmement méticuleux, presque diabolique par sa précision, et qui est également un mec assez intelligent.
Alors, il y a aussi les chaussettes. Je m'intéressais, dites-vous, assez peu aux conditions de vie des chaussettes avant de faire la connaissance de Paul. Quand une chaussette se trouait, je ne faisais pas de sentiment, je balançais la paire à la poubelle. C'est vrai que les chaussettes, donc Paul Chaussette d'ailleurs, Paul disait, dites-vous plus tard, enfin un peu plus loin, disait avoir quitté l'espèce humaine pour devenir chaussette. Donc c'est vrai que bon, c'est un élément de mode. Certains, il y a les chaussettes rouges, il y a les chaussettes colorées, c'est quand même très rigolo. C'est revenu à la mode.
Ah oui, c'est revenu à la mode, c'est marrant. Hein, les chaussettes sont un élément de distinction, alors qu'on était plutôt dans l'élément qu'on fait disparaître, la chaussette, etc. En fait, c'est un peu un élément méprisé, en fait, et qu'effectivement, oui, qu'on va jeter... alors, pour le coup, c'est un élément dont on se sépare généralement, alors sans problème, etc. Oui. Donc là, j'en ai fait un élément affectif par rapport à un personnage dont... qui est fragile lui-même, en fait, voilà.
Ouais. Alors, j'étais fou amoureux. Une fois, un jour, une fille m'a laissé tomber comme une vieille chaussette. J'ai compris ma douleur. Paul transformé en chaussette après une rupture amoureuse. Et il avait baptisé les siennes. Celle de gauche s'appelait Hippolyte. La droite se prénommait Achille. Il y a aussi, alors ça, c'est plus diffus, cette notion aussi de travestissement, de se travestir, de se déguiser. Il y a la notion, on est bien dans sa peau, on s'habille, et après on peut se travestir, on peut se déguiser. Il y a ça hein, chez vous aussi.
Absolument. Mais c'est le déguisement qu'on va mettre tous les jours. Il y avait quelque chose comme ça, qu'on s'habillait. À un moment, je mettais des chemises à jabot, des espèces de trucs comme ça, qui étaient vraiment très très voyants. Et il y avait cette idée de déguisement, mais le déguisement qu'on met tous les jours. Donc, ouais. Et ça, c'était assez joyeux de s'habiller en disant, tiens, aujourd'hui, je vais me déguiser, etc.
Et puis, il y a aussi, vous dites, en tout cas, aujourd'hui, s'habiller ne présente plus un danger. C'est vrai qu'autrefois, je pense au temps de George Sand, par exemple, qui s'est travesti, il y avait des amendes. Enfin, on ne pouvait pas s'habiller comme on voulait. Une femme ne pouvait pas s'habiller en homme et un homme encore moins en femme. Enfin, voilà, maintenant, on est libre.
Je dirais, ça dépend des sociétés. Dans la nôtre, oui. Si on va en Afghanistan, on voit que, ben non. Mais non, le vêtement, une femme ne peut pas s'habiller comme elle veut. Sinon, elle peut être exécutée. Donc non, le vêtement, non, je pense que c'est toujours un enjeu. Peut-être moins ici, aujourd'hui, en France, il n'y a aucun problème. Effectivement, on peut se travestir. Alors qu'on est à Paris, c'est plus facile. Je pense que si on a un petit patelin, etc., avec des opinions politiques un peu extrêmes, etc., je pense qu'on va être harcelé et on risque des problèmes. Dès qu'on sort, ça c'est évident. Donc je pense qu'il faut quand même modérer cette idée qu'aujourd'hui on peut tout faire. C'est pas tout à fait vrai.
Ouais. Alors vous parlez aussi du dernier habit. Vous dites si je meurs, je vais t'enterrer tel quel, cartouf, parka, pantalon tartan, que cette tenue sublime et ridicule soit ma dernière. Si je me retrouve paraplégique, je demande qu'on dispose mes cartoufles dans une boîte verte que je porte, de sorte que je puisse les admirer à loisir. Je mettrai de la musique et danserai dans ma tête. Ça, peu d'écrivains pensent à ça finalement. C'est le dernier habit, la dernière apparence, la dernière vision qu'on aura de soi-même, enfin, que les autres auront de vous-même.
Ouais, c'est un peu émouvant le dernier habit. Voilà, c'est juste, une émotion du dernier habit. Hein, voilà, et qu'ailleurs, qu'on voit quelqu'un de ses proches disparaître. Le dernier habit, ce mouvement va déshabiller encore, décédé récemment. Il y a quelque chose de. Les mouvements, voilà, c'est tout.
Et puis avec toujours cet arrière-plan, la bibliothèque. Ce qui gouverne, dites-vous, la salle de lecture, ce ne sont pas les collections, le savoir constitué et classé. Ce qui gouverne la bibliothèque, c'est le silence, le grand vide de l'espace et du temps. Sans cela, la bibliothèque imploserait. Donc ce temps du silence, ce temps du... On est dans un lieu de passage où il y a des voix qui ne sont plus là, mais qui sont dans les livres et qui vous parlent. C'est un lieu qui est présent hein, tout au long du livre.
Oui, c'est pour moi les bibliothèques municipales sont très importantes. D'ailleurs, je le dis, j'ai constitué ma culture, notamment musicale, littéraire et musicale et tout le reste dans des bibliothèques municipales. Donc, je suis très très redevable de ces endroits. Et évidemment, il y a cet endroit, ce silence qui peut être très impressionnant. Ça dépend des bibliothèques. Je pense que les bibliothèques ne doivent pas être. Il y a une espèce de religion du silence des bibliothèques qui peut être, je parle en tant que bibliothécaire, qui peut être un peu agaçante. Je pense qu'il faut un petit peu se détendre là-dessus. Mais quand vous allez dans certaines bibliothèques, vous êtes le premier truc, évidemment, qui saisit ce grand silence impressionnant. Impressionnant. On ose à peine marcher dans ces grandes salles de lecture tellement on a l'impression que il y a un être supérieur qui nous dit taisez-vous, silence bibliothèque.
Il y a beaucoup de cérémonial, finalement, vous avez beaucoup de cérémonial vis-à-vis de la lecture. J'ai remarqué que les vêtements avaient une incidence sur ma manière de lire. Je n'ai rien contre la lecture en survêtement ou en pyjama, mais à titre personnel, ça me perturbe. En habit négligé, je me déconcentre vite, alors que quand dans un habit choisi, je reste attentif longtemps. J'ai davantage de facilité à m'approprier les textes. Je lis mieux. Bien sapé. Ça, c'est voilà, le côté... Alors, il faut qu'on parle de Baudelaire, absolument. Là, j'allais oublier, c'est très important. Il y a l'habit noir, qui est le dernier chapitre de votre livre. Et on apprend plein de choses sur Baudelaire. Vous dites, j'ai lu qu'il consacrait 2 heures chaque matin à sa mise. Il s'y serait tenu toute sa vie, même plus tard, quand il connaîtra la propre... pauvreté. Et vous dites, Charles ne serait pas Baudelaire s'il se contentait de ce qu'il possède. Donc il a voulu aussi posséder, je crois, l'habit bleu de Goethe.
Alors en effet, en fait, alors Baudelaire, rapidement, ouais. je vais raconter un petit peu ce qui lui arrivait, pour celles et ceux qui connaissent mal. Effectivement, Baudelaire est un fils de très bonne famille, son père meurt et il hérite d'une fortune. Sauf que Baudelaire est dandy et extrêmement dépensier, et donc il va dépenser la moitié de la somme qui lui est revenue en un an. Tous les jours, il va chez le tailleur, il achète. C'est un homme de goût, hein, Baudelaire. Des meubles, du parfum, il met du parfum sur les tapis, etc. Tout est sublime et très juste, etc. Sauf qu'au bout d'un an, on va lui dire, ça suffit. Et donc, on va le mettre sous tutelle. Et donc, ce qu'il a dépensé pendant un an, il va dépenser la deuxième partie de la somme pendant toute sa vie. Et donc, il va devenir de plus en plus pauvre, etc. Et donc, Baudelaire devient pauvre. Et pendant cette période-là où il se fait faire des fringues, il se fait l'habit bleu de Goethe.
Voilà, son tailleur.
Chez son tailleur. Et ensuite, il va se créer l'habit noir qu'on peut voir, hein, évidemment, dans les photos, qui va être la veste qu'il va porter tout le temps. Et qui va être une veste assez particulière dans le sens où l'habit noir, c'est un élément de conformisme de la part des poètes. Ils trouvent ça absolument horrible, comme une veste noire. C'est horrible, on peut pas s'habiller comme ça. C'est à l'époque où ils s'habillent un peu comme Méphisto, ils s'habillent un peu comme les diables, Nerval, Théophile Gautier, il y avait ce look du poète. Et donc lui décide de faire de l'élément le plus commun un élément de distinction. Il va dire associer la beauté poétique à la beauté sociale, je crois.
Voilà.
Donc, il va faire cet élément de distinction, cette veste qui va être extrêmement simple, mais parfaitement taillée, qu'il va porter toute sa vie.
Il va porter toute sa vie. Il en veut toujours davantage. Il commande quelque chose tous les 3 jours. Je désire un habit négligé ainsi qu'un petit manteau d'intérieur. Je désire un paletot. Paletot, le terme a disparu aujourd'hui. Ou athé, je désire une robe de chambre. Mettez-moi aussi 4 pantalons plus 3 gilets. Alors, ce fameux habit noir, est-ce que c'est une mythologie ou pas? Comme la truc de peau d'âne, on pourrait dire. Vous dites, Baudelaire meurt en 1867. Sa mère, Caroline Opic, récupère l'habit noir. Elle le néglige. Mais par miracle, ne le jette pas. Quand elle meurt à son tour, en 1871, l'habit noir se retrouve en possession d'un chiffonnier d'Honfleur venu vider la maison. Le peintre Adolphe Félix Kals, familier de Honfleur, pré-impressionniste, l'achète. Il est séduit par le confort que le vêtement procure, plus que par la perfection de sa coupe. On sait que Kals le porte lors des premières expositions des peintres impressionnistes. Enfin, c'est un habit mythique.
Sauf que tout ça est faux. Ça a l'air absolument juste et renseigné, mais c'est tout à fait faux. L'habit noir a disparu à la mort de Baudelaire. On l'a jamais retrouvé. Voilà. Mais disons Baudelaire, en fait, j'ai beaucoup de mal en fait à mettre des références intellectuelles dans mes livres. Si je veux pas passer pour l'auteur qui sait, blablabla, qui veut dire ah je vais vous expliquer Baudelaire, etc. Donc j'arrivais pas à trouver comment le faire rentrer dans le texte. Et en fait, je me suis dit je vais faire rentrer à travers cet habit qui va arriver dans le texte. Quelqu'un va le posséder, va posséder cet habit. Voilà.
Et par le biais du dialogue aussi, je crois. Enfin, il y a le dialogue sert. Souvent, il y a des dialogues qui rompent le rythme de côté linéaire de l'écriture.
Oui, les dialogues, en plus, c'est vraiment un truc très récent, parce qu'avant, je n'écrivais pas du tout de dialogue dans mes livres, ça me semblait hors de propos. Et en fait, je prends du plaisir à écrire des dialogues qui sont plutôt du tac au tac, quoi, vraiment la discussion un peu rapide, là, tac, tac, et voilà. Mais oui, ça m'a permis, justement, dans le dernier chapitre, autour du vêtement de Baudelaire. Je l'avais écrit au départ normalement, et puis je me dis, oh là là, pour le coup, c'était vraiment littéraire. Et un peu chiant, un peu didactique, quoi. Et donc, à partir, il y avait un dialogue, etc. Ouais. Ça donnait beaucoup plus de dynamisme et d'intérêt, je pense, à ce qui se passe, quoi.
Alors, dans vos remerciements, ils sont rédigés sous forme d'inspiration. Je vais pas tout, c'est un paragraphe assez long. Bon, vous remerciez Alex Nollet pour les scooters et les relectures, Charles Baudelaire pour Charles Baudelaire, Clément Rosset pour En moins et moins on se connaît, mieux on se porte. Et il y a toute une liste comme ça. C'est une forme de remerciement, aussi un petit exercice d'écriture.
Oui, ben j'ai repris le vocabulaire de la mode où on met les inspirations. Normalement, dans la littérature, on met pas les inspirations. On dit jamais, on dit... C'est pas intellectuel, comme c'est pas dans un registre intellectuel. Et pourtant, c'est le mot juste, je pense. Voilà. Donc on met un cahier tendance, des fois, dans les trucs. Et là, évidemment, c'est les inspirations. Alors, Rosset, il m'a vachement aidé, hein, honnêtement. Il m'a vachement aidé. Et moins on se connaît, mieux on se porte. Je trouve ça absolument génial.
Oui, ça, c'est une de vos lectures. Alors, comment écrivez-vous, Cyril Martinez? En silence, en musique, dans des conditions particulières, sur des petits carnets, sur ordinateur?
En silence. La musique, je ne peux pas écrire en musique, c'est impossible. Quand j'écris la musique, j'écoute la musique. Je ne peux pas faire. Quand j'écris la musique, j'ai dit. Je me suis trompé.
Lapsus révélateur.
Exactement. Non, je lis. D'abord, le papier. Ouais. Note papier, et puis traitement de texte, impression, correction, voilà, jusqu'à arriver à quelque chose de juste, en tout cas, je l'espère.
Pour ce livre-là, il y a eu 4 ans de travail, non? Il y a eu combien de...
Non, 2 ans, j'ai mis 2 ans. Bon, un truc comme ça, ouais.
Et beaucoup de relectures, ça peut aller... Enfin, c'est jusqu'à temps que vous ne corrigiez plus, j'imagine.
Jusqu'au moment où ça marche, en fait. Hein. Donc c'est vrai que je travaille beaucoup sans relâche, jusqu'au dernier moment. Même dans les épreuves, je continue à travailler. Même là, je vois encore des trucs qui ne me plaisent pas. Bon, voilà. Ouais. J'aurais pu faire mieux à des moments, mais bon, voilà, c'est comme ça.
Quel est votre personnage de roman préféré, Cyril Martinez?
Alors ça, je réponds sans problème, c'est Joseph K. Je publie prochainement d'ailleurs un livre qui m'a été commandé sur Joseph K. C'est vraiment le personnage, pour moi, le plus fascinant de la littérature. C'est-à-dire, c'est un banquier pas du tout sympathique, qui vraiment remet pas en cause l'ordre existant, etc. Mais il y a un mystère derrière ce personnage, c'est-à-dire comment ce personnage se croit à l'abri parce qu'il est intégré dans la société, va devenir un paria. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce Joseph K? Et donc j'aime bien parce que c'est aussi un personnage assez courageux. Et au fond, il va chercher, il va accéder à la connaissance. Pourquoi, en fait, dans cette société qui le condamne, non pas pour avoir fait quelque chose, mais pour ce qu'il est, et il va essayer d'accéder à la connaissance. Il se trouve face à une loi que tout le monde comprend, semble connaître, sauf lui. Voilà. Il exclut. De la connaissance commune, de celle qui permet de juger les gens, etc. Et donc, il va faire un effort incroyable. Il va transgresser, d'ailleurs, il va transgresser le travail, il va partir du travail, etc. Un effort physique, il va courir, il va faire des tas de choses, déplacer des meubles, etc. Donc, c'est un personnage que je trouve bouleversant. Et puis, évidemment, comme tous les grands personnages, on peut, à chaque fois, à chaque époque, va lui donner des lectures particulières. Je pense qu'aujourd'hui, celle que je défends un petit peu, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Pascal Casanova, c'est les risques de l'assimilation. C'est un personnage très probablement, il n'y a pas d'éléments qui permettent de dire que c'est un juif, mais on comprend que c'est la condition d'un juif de cette époque. Et Kafka va dire un élément qui pour moi est politiquement très fort, c'est-à-dire en fait, vous croyez que le fait de vous être assimilé dans la société va vous protéger? Eh bien non. Eh bien non, au contraire, peut-être. Vous faites une erreur, vous vous rendez encore plus vulnérable. La suite, ce qui passe après à la mort de Kafka, lui a hélas donné raison.
Oui, c'est un peu aussi la thématique de votre roman, Cyril Martinez, de comment habiller un garçon, c'est-à-dire le fait de vouloir se modeler son apparence sur celle des autres, ça ne sert finalement à rien. Ça peut même vous entraver, vous empêcher de vivre.
Absolument. Je pense qu'effectivement, le conformisme, en fait, est soi-disant pourrait nous protéger. On va se conformer à une société, etc. Moi, je pense qu'on se rend vulnérable. Enfin, je veux dire, j'ai tellement vu, et comme tout le monde, des gens qui arrivaient dans une entreprise et qui allaient se conformer à l'entreprise. Et un excès de conformisme allait les rendre absolument vulnérables et pouvait voir créer des envies de cruauté. Moi, j'ai vu ça. Hein. Et cette cruauté par rapport à quelqu'un qui s'est cru comme ça, justement, assimilé, elle est terrible.
Êtes-vous plutôt dialogue ou description?
les deux. J'adore les inscriptions. J'en fais pas énormément, mais ouais. moi dans les livres, j'adore les inscriptions. Chez Flaubert, c'est fou. Enfin, je veux dire, c'est vraiment génial. Il y a une jouissance dans la description qui est incroyable. Moi, j'aime beaucoup.
Roman ou essai?
Bah, les deux. Le roman, poésie, essai, tout, en fait, tout. Non, non.
Proust ou Sainte-Beuve?
Ah, Proust.
Qu'est-ce qui vous séduit quand vous lisez un livre? Est-ce que c'est le titre, la première phrase, la dernière phrase? Qu'est-ce qui vous amène à lire un livre?
Oh, c'est une bonne question. Votre question est tellement belle que j'ai pas envie d'y répondre. C'est la langue. C'est la langue, le titre. Évidemment, c'est une première chose. Mais quand la langue est extraordinaire, là, je viens de lire Déclaration de la personne de Elfried Jelinek, qui est une de mes écrivaines préférées. Et c'est fabuleux. Enfin, je veux dire, comment elle fait 350 pages sur le contrôle fiscal? Elle suit bien le contrôle fiscal. Elle fait un livre qui est génial. C'est sarcastique, c'est drôle. Il y a une critique de la société qui est absolument folle. Comment fait-elle ça? Je veux dire, c'est vraiment qu'on m'explique, quoi. Comment m'explique ce génie de la langue, ce génie de, voilà. Une folie littéraire, et en même temps, c'est un plaisir de lecture.
Est-ce que vous vous souvenez de votre premier livre? Vous avez un bonheur de lecture, enfant. Est-ce que vous vous souvenez d'un livre votre premier livre que vous avez lu?
Mon premier bonheur de lecture, c'est un Tintin. Mmh. Voilà, c'est vraiment un Tintin. Ou des livres de Rézère, parce que mes parents lisaient beaucoup Rézère. Donc j'étais un petit peu... Voilà, c'est ça, il y avait d'un côté Rézère. Voilà, c'était la culture d'époque, je trouve ça génial, Rézère. Donc Rézère et Gros Dégueulasse, par exemple. Et puis Tintin au Tibet.
Une question bâton. Quel est le livre que vous aimeriez emporter sur une île déserte?
Quelle question difficile. Les poésies de Rimbaud. Voilà.
À quoi ressemble votre bibliothèque? Est-ce que vous avez plusieurs bibliothèques, des bibliothèques de travail, des bibliothèques thématiques? Est-ce que vos livres sont classés ou pas?
Alors moi je suis bibliothécaire, donc chez moi c'est un gros bordel. Les livres, non, ils sont pas du tout classés. Alors je pourrais dire j'en ai le moins possible, mais j'en ai beaucoup quand même. En tout cas, j'ai pas envie de me faire envahir par les livres, parce que j'ai déjà vu des intellectuels comme ça qui avaient des milliers de disques, de livres, pardon, et ça devient un peu angoissant, en fait, voilà. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'avais lu une fois que Borges, les gens allaient chez lui, et puis ils disaient « Où est votre bibliothèque ?» Ils disaient « Elle est là », et en fait, il y avait deux étagères, en fait. Il gardait pas les livres. Ah ouais. ça paraît très bizarre. Parce
que lui Borges, aussi bibliothécaire.
Et qui était aussi bibliothécaire. Voilà, chez Borges, les gens imaginaient vraiment l'homme bibliothèque, Borges par excellence. Eh ben, il y avait rien, en fait. Alors moi, j'ai besoin d'avoir des livres chez moi, d'abord. Ça me semble très important, voilà. Parce que je les lis, etc. Et puis c'est beau d'avoir des livres chez soi, mais voilà. Mais non, c'est extrêmement mal classé et de pire en pire, en fait. J'arrive plus rien à retrouver, c'est une catastrophe.
Est-ce que vous avez une table de travail? Vous avez un espace d'écriture à vous? Ou vous aimez... Je pense que vous écrivez un peu n'importe où aussi, mais est-ce que vous avez ce coin, cet espace de travail?
Et un bureau, ça m'angoisse, en fait. Surtout un bureau d'écrivain, ça m'angoisse, en fait. Donc non, j'écris n'importe où, en fait. J'ai pas du tout d'endroit... un endroit impersonnel est le mieux. Ouais. Une salle de lecture, une bibliothèque, c'est le top. Voilà.
Est-ce que vous avez des rencontres avec les lecteurs? Est-ce que le lecteur, vous pensez à votre lecteur quand vous écrivez?
Oui, c'est difficile, mais oui. Enfin, je veux dire, c'est difficile. Oui, je me projette toujours vers une lecture possible. Ah oui, je pense sans cesse à la réception. Même si la réception, en fait, elle va toujours dépasser ce qu'on veut faire. On la maîtrise pas, et heureusement. Mais oui, je pense bien sûr
à la réception.
À l'effet, ça va produire.
Ouais. Écrivain du jour, écrivain de nuit?
Alors, moi, si j'avais à choisir, j'écrirais la nuit. Mais le fait est que c'est un peu compliqué. Parfois, quand il m'est arrivé d'avoir des disponibilités comme ça pour écrire, je me levais à 2h du matin et j'écrivais la nuit. En fait, pour une raison, c'est pas très simple, c'est que quand je... Bon, je dors pas très bien, un peu comme tout le monde. Et en fait, ça m'angoissait, en fait. Et quand je me levais le matin, je me disais, ah, t'as pas bien dormi. Et ça m'angoissait de me dire, ah, je vais écrire, il est 8h du matin, vas-y, ou 9h du matin, vas-y. Et en fait, ça m'angoissait. Et en fait, du coup, en me levant la nuit, si j'écris la nuit, c'est bien. Et en fait, Oui. Et en fait, voilà. Du coup, j'étais débarrassé d'un impératif qui me libérait vachement, en fait. Du coup, j'arrivais à 8h du matin, bah, j'avais écrit 6h, et super, quoi. Voilà, ça y est, ma journée est faite, quoi.
Est-ce que ce livre vous a changé ? Est-ce que chaque livre que vous écrivez vous change, vous modifie, vous sentez différent après l'écriture d'un livre ?
Oui. Oui, bien sûr. Différent. Je ne sais pas comment. En tout cas, je pourrais dire que je progresse un peu de livre en livre. C'est ce que j'essaie de faire. Voilà. Là, il s'est passé un truc depuis 2-3 livres. C'est-à-dire qu'auparavant, bon, c'est mon 9e livre. C'est que j'aimais pas du tout. Enfin, j'écrivais un livre contre le précédent. C'est-à-dire, à chaque fois, je me disais, ah, c'est pas bien ce que t'as fait, etc. Donc, écris un nouveau livre. Puis j'en faisais un autre. Je disais, ah, c'est toujours pas ça. Et donc, j'avais une tendance, ce qui était un élément, stimulant de création, d'écrire contre ce que j'avais écrit moi-même, que je trouvais médiocre. Et là, je dois dire que depuis 3-4 livres, je me dis bon, finalement, ça va, ce que j'écris me semble ouais. Tenir. Voilà, je veux pas dire plus que ça, me semble juste. En tout cas, c'est ce que je voulais écrire. En fait, ça, c'est vraiment pour moi ce qui est le plus important de tout, c'est quand quand j'ai fini un livre, je peux dire, je peux le donner à n'importe qui, à des amis, à d'autres personnes, en disant, vous allez en penser ce que vous voulez. Mais c'est vraiment ce que je voulais écrire. Et là, je tiens à souligner aussi l'importance de Jeanne Guyon et de Yves Pagès chez Vertical, qui sont extrêmement attentifs, pointilleux, non autoritaires, mais qui permettent vraiment d'aller jusqu'au bout de ce qu'on veut faire. Parce que c'est pas eux, ce qu'on veut faire, nous, moi, et tous les autrices et auteurs de Vertical. Et ça, putain, c'est vraiment, au moins qu'on a fini, on dit, ouais, voilà.
Arriver à bon port. C'est une traversée en solitaire, l'écriture, non ?
Ah oui, c'est solitaire. Évidemment, on peut pas échapper à la solitude, ça fait partie du truc. Ouais. Mais par exemple, moi, j'aime pas trop les résidences d'artistes. On va se mettre à part, etc. On va dire une espèce de couvent. On va dire, voilà, vous êtes à part, etc. Concentrez-vous. L'écrivain n'a besoin de voir personne. Il n'a pas de vie sociale. Alors moi, quand j'écris, j'ai besoin d'avoir une vie sociale. C'est pas possible.
Merci à vous Cyril Martinez pour Comment habiller un garçon. Ça vient de paraître aux éditions Gallimard dans la collection Vertical. Merci à vous.
Merci infiniment. First time I called you girl, they say you wasn't home. And the second time I tried it, they say you want to be left. Because of the light.
Et voilà, tout a une fin et l'émission Bibliomanie est à présent terminée. Mais vous pouvez réécouter cet entretien avec Cyril Martinez sur le site de Radio Libertaire. Vous pouvez aussi, et ce serait une bonne idée, aller en librairie pour vous procurer « Comment habiller un garçon » paru chez Gallimard dans la collection Verticale. Ainsi que, pourquoi pas, les autres titres de Cyril Martinez. Je pense notamment à ses trois livres totalement inclassables, Deux jeunes artistes au chômage paru en 2009 aux éditions Bûcher-Chastel, ou bien encore La bibliothèque noire paru en 2018 toujours chez Bûcher-Chastel, ou bien Le marathon de Jean-Claude et autres épreuves de fond publié chez Gallimard dans la collection Verticale. En attendant, merci de votre écoute, de votre fidélité, et surtout n'oubliez pas de lire, comme le dit un certain Daniel Pénac, le temps de lire dilate aussi le temps de vivre.
On passe des années à se chercher paumé. On se sort du brouillard, on se voit entouré. On comprend le cœur trop que tout va s'oublier. Puis le temps d'un sourire, on aperçoit le pire. Celui qui sans égard nous emmène à vieillir. C'est le temps d'un sanglot, c'est le temps d'en finir. Il ne restera rien. Il ne restera rien. Il ne restera rien et ne prends pas ma main. Il ne restera rien. Il ne restera rien, il ne restera rien, on peut mourir demain. Il ne restera rien, il ne restera rien, il ne restera rien et ne prends pas mes mains. Il ne restera rien, il ne restera rien, il ne restera rien, on va crever demain. Et un jour tout finit, même l'infini s'enfuit. On vit ici, on part ailleurs, on s'en soucie. On a vrai, on a faux, on l'admet, puis on nie. Il ne restera rien, si vous écoutez bien. Ces messieurs, dames, l'histoire, c'est en tout cas la fin. Une chanson dont bientôt il ne restera rien.
Il ne sait où aller, il est là comme un con, il est plutôt paumé. C'est son chien qui le guide, il va de pisse en pisse, il va de crotte en crotte. Son destin est bien triste, c'est une vie de chien. Il boit pour oublier qu'il vit, il dort pour oublier qu'il boit. C'est un bien triste sort. C'est un bien triste sort. Son patron est l'ordure d'une usine de chaussures. Qu'on parle l'odeur des pieds, mais l'odeur du métier qui devait l'augmenter de moins d'un mois que rien. Ça ne fait pas grand chose, mais ça fait toujours bien. C'est son chien qui le guide, il va de pisse en pisse, il va de crotte en crotte. Son destin est bien triste.
Ah.
Il boit pour oublier qu'il vit, il dort pour oublier qu'il boit. C'est un bien triste sort. C'est un bien triste sort.
Il était syndiqué, on l'a licencié. C'est pas toujours facile de pouvoir s'exprimer. Il n'avait plus d'argent, sa femme l'a quitté. Il est tombé de haut dans la bouche du métro. C'est son chien qui le guide, il va de pisse en pisse, il va de crotte en crotte. Son destin est bien triste.
Il boit pour oublier qu'il vit, il dort pour oublier
bateau navrant, sa maison de repos, c'est les stations de métro. Il ne l'a pas choisi, mais ainsi va sa vie. C'est un homme abattu que l'espoir a perdu. C'est son chien qui le guide, il va de pisse en pisse, il va de crotte en crotte, son destin est bien triste.
La vie de chien. Il croit oublier qu'il vit, il dort pour oublier qu'il boit. C'est un bien triste sort. C'est un bien triste sort.
Dentelle, je le broderai par les quatre bouts, et puis m'en ferai des nappes si belles que nous mangerions l'amour à genoux. Si tes yeux étaient de vieilles étoiles, de celles qu'on voit mais qui ne sont plus, j'y regarderai derrière la toile de ce grand tableau de bleu suspendu. Si tes cheveux fous étaient la misère et que de ton cœur je fisse un bateau tout en remontant le cours de la Seine, tu serais Paris et moi matelot. Si ton astre noir où je m'illumine était le calice, et si j'étais Dieu, j'y poirais la mort jusqu'à la racine, et puis m'en irais refaire les cieux. Soleil mort des plaines célestes descendait un jour dans ton corps éteint, il luirait encore à tes seins modestes un peu de leur flamme, un peu de ma faim, un peu de leur flamme, un peu de ma faim.
Juste encore un défi, lancé plus haut que nous, plus loin que de raison. Et si l'on vise alors la cible inaccessible, c'est qu'une corde en nous se tend vers les étoiles. Chaque jour nous voudrait soumis baissant la tête, quand en nous s'élaborent les folles floraisons, ces fleurs du grand désir toujours inassouvis, quand se lèvent soudain nos yeux vers les étoiles. Savoir après la pluie peut-être un arc-en-ciel, et la plus haute branche au dernier rossignol, que les vents et les vagues emballent leur galop au cul de nos rafiaux ramant vers les étoiles.
écrira d'une encre indélébile sur la page à venir le poème du monde. Et quel souffle nouveau attisera nos rêves pour que s'élève encore un chant vers les étoiles.
Elle est dentelle,
elle est vestale,